Bonjour, c'est Solidaire d'abord. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde, salut Michel.
Donc aujourd'hui on va faire une émission un peu singulière parce que Julien est venu pour nous parler de la condition ouvrière à travers les âges, hein, quelque part.
Oui, je suis là pour discuter un petit peu, enfin donner un peu des éléments sur comment est-ce que la classe ouvrière s'est constituée en tant que telle, c'est-à-dire comment on est passé d'une époque où on avait plein de paysans à une époque où on a eu plein d'ouvriers.
Voilà. Alors juste avant qu'il commence, je vais essayer de vous donner les dates importantes qui viennent. Alors cette semaine, mercredi 28 à 19h à la cantine Pop, il y aura une soirée spéciale sur la Palestine. Donc 19h, ça commence. Et à 20h30, il y aura sans doute une auberge espagnole pour continuer en fait le débat d'une façon plus intime. Ensuite, on a créé une association qui s'appelle Débat. Cette association qui est enregistrée à la préfecture, etc. Tout ça, avec plein de gens dedans qui ont envie qu'on ait un petit peu plus de démocratie à proximité. Ça ferait pas de mal, quoi. Voilà. Surtout quand on voit les listes, comment elles se composent. Enfin, bon, bref, tout ça. Ben, on arrive en période électorale. Donc, on va voir si on peut arriver à demander à ce qu'il y ait plus d'ouverture, de débat, tout ça, dans cette période-là. Dernière petite chose, on aura une grande manif à Lyon. Sur Gaza, samedi qui vient, donc le 31. Il y aura covoiturage, etc. Mais alors, c'est compliqué. Renseignez-vous. Donc, le 31 à Lyon, je pense qu'il y a une possibilité de covoiturage. Voilà. Et puis, alors, dernière petite chose, moi, ça me hérisse. C'est pour ça que j'en dis juste un mot. Il y a Caroline Yadan qui veut à tout prix faire passer une loi pour permettre à Israël de continuer son génocide tranquille, sans qu'on puisse rien dire et que Israël soit complètement lavé de tout soupçon, pardon, les civils.
Ouais, les civils, plus blanc que blanc, quoi. Ouais. Voilà, oui, bah on sait, on connaît.
Bon, alors on va attaquer sur ce sujet.
Bon, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il y a plein de trucs à dire. On va parler de 15e siècle jusqu'au 19e, voire au début du 20e siècle. Tout ça en 20 minutes, donc
voilà,
ça va être très compliqué.
Ça va être du rapide. Et alors, toi, à quel titre tu fais ça, toi ?
Alors, à quel titre je fais ça ? Je fais rien du tout. Moi, je suis pas un spécialiste du tout de la question. À la base, moi, j'ai une formation en sociologie, en anthropologie. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, je me suis toujours intéressé aussi à la politique. Et à un moment donné, moi, j'essaye juste d'articuler des choses qui m'intéressent dans le regard qu'on peut avoir sur le passé, parce que la manière dont on regarde le passé peut nous éclairer sur comment on va regarder notre présent et notre futur. Ouais. Donc moi, c'est ça, ma porte d'entrée, c'est quoi les sociétés humaines, c'est quoi être un être humain, comment est-ce qu'on s'est organisé à travers l'histoire entre nous, qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne sait pas forcément, et où on va maintenant, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Et là, tu vas nous faire un pan relativement court. Tu nous parles du 15e au 19e siècle.
Voilà, c'est ça.
Juste 400 ans.
Voilà. En 20 minutes, en un quart d'heure, c'est fastoche. Donc, vous avez déjà compris qu'il va y avoir des tonnes de raccourcis et que je vais faire les choses le plus synthétiquement possible. Donc, évidemment, il y aura des petites inexactitudes, des petites choses un peu... Enfin, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, là, en un quart d'heure. Là, l'idée aujourd'hui, c'est juste un peu d'essayer de faire une espèce de photo, un espèce de film de comment est-ce qu'un être humain au 16e, 17e siècle, 18e siècle, il voit le monde comparé à aujourd'hui, un peu comment on le voit, et de se rendre compte qu'en fait, dans les choses qu'il voit, qu'il vit au quotidien, il vit pas du tout les mêmes choses que nous et il voit pas les mêmes choses que nous autour de lui. Et il y a plein de choses qui nous paraissent fondamentales, qui pour lui sont pas du tout forcément fondamentales de la même manière. Donc pour en parler, on va partir sur plusieurs axes. Et le premier axe dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est celui du féodalisme et du servage. Puisque avant la Révolution française, on est dans un système qui est géré par la noblesse et que le système donc qui va avec, c'est celui du féodalisme et du servage. Les seigneurs possèdent les terres, les paysans sont rattachés à cette terre et la propriété privée n'existe pas de la même manière qu'aujourd'hui. Quelque part, on pourrait presque se dire que le seigneur et les paysans sont eux-mêmes rattachés à cette terre. On a une lignée de sang qui possède cette terre et les paysans sont rattachés à cette terre. Sur cette terre, les paysans, ils doivent faire la corvée, c'est-à-dire qu'en gros, ils doivent dédier une partie de leur temps et de leur travail à faire de la production pour le seigneur. Et en plus de ça, ils doivent payer pour utiliser, je sais pas, le pont, le bac, le moulin, si c'est celui du seigneur, pour pouvoir l'utiliser. Donc en gros, ils doivent faire cette corvée, payer un petit peu pour certains services, et une fois que ça c'est fait, une fois que la corvée elle est effectuée, ils ont un droit d'usage sur les terres. C'est-à-dire que le paysan sert à l'époque féodale, une fois qu'il a terminé son boulot pour le seigneur, il a un droit d'usage sur la terre. La terre, elle n'est pas à lui, la terre, elle est au seigneur, mais lui, il a le droit de l'utiliser.
Donc on n'est plus tout à fait dans l'esclavage, on est dans autre chose.
Ah non, on n'est pas dans de l'esclavage, on est dans du servage. Et donc, à plusieurs égards, on peut se rendre compte que le servage, même si c'est assez horrible, c'est peut-être bien moins pire quand même que l'esclavage. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'une fois qu'il a dédié, je ne sais pas moi, 3 mois en gros de son année à bosser pour son seigneur, le paysan, il va discuter avec tous les autres membres du village et ils vont avoir un droit d'usage sur ces terres, ça veut dire les prairies, les pâturages, les forêts, ramasser le bois, glaner, etc. Et tout ça, c'est géré collectivement. C'est-à-dire que très rapidement dans ton année, à un moment donné, les paysans doivent s'organiser entre eux pour pouvoir gérer un espace commun qu'ils ont le droit d'utiliser. Donc, à cette époque-là, on est sur une forme d'économie qui est principalement une économie de subsistance. Les travailleurs, les paysans, produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent. L'économie de marché, elle est assez éloignée de ça. On n'est pas dans un système où l'argent a la même place qu'aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils ont un petit peu d'argent, mais cet argent, il sert principalement pour se procurer ce qu'on ne peut pas se procurer directement avec les autres. Puisque la majeure partie des transactions et des interactions entre les individus, c'est en grosse proportion du troc, du don contre don et de l'échange de services. Je vais te donner mon blé au moulin, au meunier du coin, tu vas me faire de la farine, je vais te laisser 2 sacs de farine. Ou alors, si c'est moi qui fais le pain, bah, je vais te ramener du pain. Et on va échanger les choses comme ça et partager les biens communs. Ces communs, c'est ce qui reste aujourd'hui sous la forme des terrains communaux. En fait, ça s'est transmis jusqu'à nous maintenant. Les terrains communaux, c'est ça, en fait. Hein, c'était des terrains dont on était plusieurs à avoir le droit d'usage, en fait. Et qu'il fallait qu'on s'organise les uns avec les autres. Donc ça, c'était vraiment la façon dont était organisée la société féodale et le mode du servage. Donc, il faut comprendre que quand, à la suite de la Révolution et à la suite de la montée en puissance de la bourgeoisie qui est finalement à remplacer la noblesse au pouvoir, il faut comprendre que les paysans qui étaient dans le servage ont vécu l'exode rural et le passage à la condition ouvrière comme un déchirement et une perte de statut énorme. D'accord.
Ils ont changé de vie, quoi, complètement.
Ils ont changé de vie, et ça, pour ça, j'ai 2-3 petites...
Changé de repère.
J'ai 2-3 petites citations pour ça, pour en parler, qui sont des poèmes et des écrits de l'époque, où on se rend bien compte de comment les paysans de l'époque voyaient les choses. En fait, donc ça, c'est par exemple un petit texte de 1837, d'Angleterre, qui dit ça. « Autrefois, les pauvres pouvaient utiliser les communs pour élever quelques vaches, mais ils ont tous été raflés, les riches se les sont appropriés. Désormais, un homme sans emploi ne peut gagner suffisamment pour éviter à sa femme et ses enfants d'être affamés. Les riches l'embaucheront pour quelques centimes par semaine, le diable les punira pour leur cruauté. » Là, en fait, dans ce texte, on voit tout le glissement de la paysannerie, du servage féodal, etc., organisé collectivement, géré collectivement, avec un droit d'usage sur la terre, qui évolue petit à petit vers la propriété privée et vers même le salariat à la fin, puisque les riches l'embaucheront pour quelques centimes par semaine. Là, on est déjà dans du salariat. Et on se rend compte qu'en fait, il s'est passé un grand chamboulement dans ces époques-là qui ont amené en fait les paysans à devenir des ouvriers petit à petit. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, plus la bourgeoisie accède au pouvoir et grandit, plus le marché devient important, puisque c'est principalement des marchands tout ça. Et avec le concours de la noblesse, puisqu'on a Colbert à l'époque, donc ministre de Louis XIV, qui va placer le marché au centre du pays.
C'est une révolution, Colbert.
Entre autres, oui, quelque part, parce qu'en fait... je sais que tu le dis avec ironie, mais oui, parce qu'en fait, à partir de maintenant, on va considérer, à partir de Colbert et compagnie, on va commencer à considérer que la grandeur d'un pays, c'est sa richesse.
Colbert, donc 1680, ministre de Louis XIV.
Ouais. Et donc, à partir de Colbert, la grandeur du pays, c'est sa richesse. Et en fait, on arrive exactement dans le même moment où on va commencer à avoir du colonialisme et de l'impérialisme qui vont se développer. Fin du 14e, 15e siècle, on n'a plus d'argent en Europe. Les mines d'argent, les mines d'or, elles sont en train de se tarir complètement. Plus tard, on va trouver des nouvelles techniques pour pouvoir les exploiter encore un peu mieux. Mais à l'époque, on est arrivé au bout. En plus de ça, il y a une grosse fuite des capitaux vers l'Asie, puisqu'il y a tout un tas de mecs qui se la jouent Marco Polo et qui vont là-bas. Et en plus, on a l'Empire du Mali qui alimentait quand même en or beaucoup de tout le système local, qui s'effondre petit à petit. Et donc, on va y avoir de moins en moins d'arrivées d'or depuis le Mali.
Et donc, tu disais... L'Eldorado, la recherche de l'or.
C'est comme ça qu'on arrive en Amérique, il y a plein de mines d'or inexploitées. Et l'image du conquistador qui est fou d'or avec le délire de l'Eldorado et compagnie, tout ça, c'est pas juste une image. En fait, ça parle d'une réalité qui est qu'à l'époque, il faut absolument ramener de l'or et de l'argent sur le marché européen pour pouvoir continuer à étendre la puissance du marché. En fait, à ce moment-là. Donc, on commence déjà, fin du 15e siècle, début du 16e, 17e, à rentrer petit à petit dans ce truc qui va être de ce qui est au centre d'un pays, c'est l'or, le marché, etc. C'est ça qui va permettre à la bourgeoisie d'exploser complètement. On commence à rentrer dans le commerce triangulaire, dans l'esclavage, dans la colonisation. Et en fait, c'est ça qui va permettre à la bourgeoisie d'exploser complètement jusqu'à un moment comme 1789, où la bourgeoisie qui fait partie du tiers-état, se dit qu'elle a peut-être là le moyen de renverser l'ordre établi et de finalement devenir calife à la place du calife, de prendre la place des rois, des nobles et compagnie.
Ce qu'ils ont fait.
Oui, c'est ce qui s'est passé concrètement. Hein. Et donc, à la place d'un peuple qui se libère, ce qu'on a eu, c'est un peuple qui essaye de se libérer et une bourgeoisie qui récupère très très vite le truc de manière à pouvoir installer son nouvel ordre à elle. Son nouvel ordre à elle, c'est la loi du marché. C'est essayer de faire en sorte qu'on rentre le plus possible dans une économie de marché, de contrôle de la production, et donc faire en sorte que les gens ne soient plus dans un paradigme de paysans autonomes qui se débrouillent tout seuls, mais qui soient de la main-d'œuvre, qui produisent des biens qu'ils vont pouvoir vendre. D'accord ? Mais ça, c'est pas un bourgeois qui s'est réveillé un beau matin au XVIe siècle et qui s'est dit « tiens, je vais faire ça ». C'est une évolution lente qui s'est faite au travers du temps, avec les conditions matérielles qui changeaient.
Je reviens juste un tout petit peu à Solidaire d'abord. En fait, à un moment, tu expliquais que les serfs s'organisaient pour arriver à profiter de la terre, enfin de ce que leur laissait le seigneur. Voilà. On peut penser que là, il y avait effectivement un travail collectif, une certaine solidarité, une organisation sociale. Oui. Par contre, là, à un moment, ils vont être complètement assujettis à ce qu'on leur dit de
tout
faire.
Tout à fait. Et je reviens justement à mes petits textes de l'époque. Donc, le premier que je vous ai lu, il était de 1837, un peu avant la moitié du 19e. Celui-là, il est carrément encore plus ancien, puisqu'on va arriver dans ce qui est vraiment être la propriété privée, ce qui va être la propriété privée. C'est-à-dire qu'en gros, les bourgeois vont pouvoir prendre les terres qui jusque-là étaient aux seigneurs et compagnie, où les serfs et où les paysans avaient un droit d'usage. À partir du moment où les bourgeois ils ont les terres, il n'y a plus de droit d'usage qui tienne. À partir de là, en fait, concrètement, les gens ne peuvent plus utiliser les terres qu'ils avaient utilisées depuis des générations pour subvenir à leurs besoins. Donc là, on a un texte de 1802 qui dit « Désormais, tous les champs appartiennent à un seul, leurs occupants ont été bannis, leur vie s'est écroulée. Désormais, l'ouvrier pauvre erre dans des villes surpeuplées ou anéanti, il meurt lentement. »
Donc, en fait, on n'est plus des terriens à partir de là. Non. On n'habite plus la planète
Terre.
Et
on n'est plus des paysans qui fabriquent le pays et qui font partie du pays.
On n'habite plus la planète Terre.
Non, on commence à rentrer dans un autre système dont on aura peut-être l'occasion d'en parler. Juste une petite digression rapide. Parce que l'idée, c'est quand même de se représenter comment l'humain, à ce moment-là, il voit le monde. Petite balade populaire du XVIIe siècle. D'accord, qui dit ça. Ça, c'est le rapport au travail des gens à l'époque. Hein. Faut se rendre compte qu'ils avaient beaucoup plus de loisirs qu'un ouvrier de la fin du 19e siècle qui travaille 14 heures par jour à la manufacture. Hein. Au 17e siècle, on fait des petites balades qui sont évidemment ironiques, évidemment un peu caricaturales pour rigoler, mais ça dit quand même bien le sens profond que les gens ont dans leur tête et comment ils ont comme rapport au travail, en tout cas quelque chose d'un peu marrant. Dimanche est un jour chômé. Chacun sait que lundi est le frère de dimanche, et que mardi en est un autre. Le mercredi, il faut aller à l'église prier, donc on va pas pouvoir trop travailler. Jeudi est à demi chômé, on travaille un peu mais pas trop quand même, tu vois. Et vendredi, il est trop tard pour se mettre à filer. Et samedi est encore à demi férié. Donc là, on a quand même un rapport des humains au travail qui est très pas le moins possible, quoi. Le moins possible, j'ai pas trop envie de trop travailler. Pourtant, ils étaient toujours actifs sur toutes les images d'époque. On voit toujours, souvent une petite fille d'ailleurs, avec une petite quenouille en train de faire des fils, etc. Mais le rapport directement au travail, c'est pas ce qui va devenir dans le 19e siècle, en fait. Ça n'a rien à voir.
Alors, je vais me permettre de lire un tout petit peu un truc de Gérard Noiriel dans un bouquin d'histoire qu'il a écrit, qui s'appelle « Une histoire populaire de la France ». Et ça illustre un petit peu ce qu'était le rôle de l'ouvrier au moment de la Révolution française. Parce que là, tu es à peu près à ce moment-là, au moment où la Révolution bourgeoise va complètement changer le sens des choses. Donc là, ça s'est écrit par un gars qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier. Et donc, tu rappelais que c'était un député girondin, donc de droite, hein, au moment de la Révolution française. Bon, ce gars-là était romancier, dramaturge, philosophe, journaliste. Et il dit « De nos jours, le petit peuple est sorti de la subordination à un point que je puis prédire qu'avant peu, on verra les plus mauvais effets de cet oubli de toute discipline. » Donc là, on sent que ce gars-là, 1780, il sent que la Révolution française va arriver. Donc tout est là, tout est mûr. Et alors, il y a quelqu'un qui travaille à cette époque-là, et donc je voudrais juste dire un tout petit bout de son texte qu'il a écrit, lui. Il dit, il travaille pour Madame du Châtelet. Elle me dit de prendre une bouilloire qui était devant le feu, et de lui verser de l'eau dans son bain parce qu'il se refroidissait. En m'approchant, je vis qu'elle était nue. Et on n'avait point mis d'essence dans son bain. Et l'eau était parfaitement claire et limpide. Madame écartait les jambes, afin que je versasse plus commodément et sans lui faire de mal l'eau bouillante que j'apportais. En commençant cette besogne, ma vue tomba sur ce que je ne cherchais pas à voir. Honteux et détournant la tête autant qu'il m'était possible, ma main vacillait. « Prenez donc garde !» me dit-elle brusquement d'une voix forte. « Vous allez me brûler !» Force me fut d'avoir l'œil à mon ouvrage et de l'y tenir malgré moi plus longtemps que je ne voulais. On ne se gênait pas devant les laquais. C'était l'usage et j'étais amené à juger par mon propre exemple que leur maîtresse ne les regardait que comme des automates. En fait, je n'étais à ses yeux ni plus ni moins que la bouilloire que j'avais à la main.
Voilà, alors là, on a quelqu'un qui s'en rend très très bien compte à l'époque. Et en fait, ça, c'est le même travail qu'a été fait récemment sur toute la classe des domestiques de la grande bourgeoisie, qui sont absolument déshumanisés. Là, on a quelqu'un qui est déshumanisé, c'est-à-dire que quelque part, sa maîtresse, elle voit même pas qu'elle pourrait être objet de désir, objet, tu vois, de désir sexuel, etc. Parce que la personne qu'elle a en face d'elle, c'est même pas un humain, c'est juste son servant, en fait. Et toi, servant, bah, tu t'existeras pas dans ces domaines-là, parce que t'es pas un être humain, finalement, tu es une bouilloire, ta fonction, c'est de verser la bouilloire. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les... Mais encore aujourd'hui, hein, il y a des productions sociologiques qui ont été faites récemment, qui parlent de toute la classe des domestiques qui se fait absolument déshumaniser de cette manière-là. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment beaucoup à l'époque aussi, dans tout ce qui est le rapport à ce qui va devenir le salariat et le rapport au travail.
Alors, c'est quand même une petite référence aux Lumières, hein, puisque cette citation est tirée des mémoires publiées par Sébastien Longchamp, valet de Madame du Châtelet, une aristocrate éclairée, femme de lettres, qui fut la maîtresse de Voltaire.
Oui, mais Voltaire, on sait très bien qu'il était prêt à casser du curé, mais certainement pas de la tête couronnée. Hein. Je rappelle que Voltaire était riche à millions et que il s'est pas gêné pour planter des couteaux dans le dos de Rousseau, bien comme il faut.
Donc là, l'historien Gérard Noiriel dit « On voit là quand même que la caste nobiliaire ne considérait toujours pas les domestiques comme des êtres
non,
humains. »
Non, voilà. Mais ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans les productions récentes de sociologie, c'est absolument saisissant et évident. Hein, on le voit tout à fait bien. Je termine un peu avec cette histoire de tunnel, là. Donc, on a des gens qui étaient habitués à vivre sur une terre, qui étaient habitués à se partager cette terre et qui étaient habitués à fonctionner ensemble en bonne intelligence pour essayer de s'en sortir collectivement. On les chasse de ces maisons, on les chasse de ces terres, ils n'ont plus le droit de les utiliser. À partir de là, on va commencer à armer le voisin qui est bien gentil et bien lèche-botte, on va lui donner un fusil pour qu'il tire sur le mec qui essaye quand même de venir sur la terre pour ramasser trois bouts de bois ou un champignon. Voilà. Bah, donc là, c'est la naissance des gardes-chasse. On va, en Angleterre, c'est documenté, on va carrément payer des bandits, armer des bandits, on va leur mettre un joli képi et on va leur dire, tu vois, moi je suis bourgeois, j'ai la loi de mon côté, cette terre elle est à moi, donc à partir de maintenant t'es plus bandit, tu es policier et tu vas empêcher les paysans d'aller sur cette terre. Donc là, on a déjà tout de suite le rapport qu'on a entre la police et la bourgeoisie et la loi. Comment est-ce que la loi sert le bourgeois? Comment est-ce que le bourgeois se sert du voyou, finalement, qu'il a armé et qu'il a mis un joli uniforme dans le cadre de la loi pour taper sur le pauvre Jean qui a rien, quoi. Hein. Et de cette manière-là, en faisant des enclosures, pas partout, hein, ça c'était très violent et très fort en Angleterre. Dans le reste de l'Europe, ça s'est fait de manière un peu plus calme, mais c'était quand même bien l'horreur.
Alors qu'est-ce que c'est l'enclosure ?
Donc les enclosures, c'est qu'on va commencer à mettre des enclos partout, en fait. Hein. C'est que les terres, elles vont être possédées par les bourgeois, la propriété privée va vraiment devenir ce qu'on a aujourd'hui dans l'esprit de la propriété privée. Il faut se rendre compte, quoi. L'idée de la propriété privée telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est tout récent, en fait. Hein. C'est vraiment tout récent dans l'histoire de l'humanité. On n'avait pas ce rapport-là à la propriété jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quoi. Hein. Et donc, voilà, on va faire des enclosures sur ces terres pour empêcher les paysans d'y accéder, en fait, parce que ces gens-là avaient gardé l'usage et la coutume du droit d'usage de ces terres, et en fait, à partir de là, on a changé, en fait. On a dit non, maintenant, vous pouvez plus y aller. Donc, on a des paysans qui peuvent plus accéder aux terres qu'ils ont toujours cultivées pour, comme moyen de subsistance, parfois même qui perdent leur maison, et par contre, on va faire des lois contre le vagabondage. Donc, en gros, ils peuvent plus habiter chez eux, ils peuvent plus utiliser la terre pour subvenir à leurs besoins, et par contre, ils n'ont pas le droit non plus d'être vagabonds sur la route. Donc, il leur reste qu'une seule chose à faire, c'est aller en ville et vendre leur force de travail, la seule chose qui leur reste. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer réellement à parler de prolétariat, puisque c'est le terme technique, hein, même si ça fait URSS, mais le prolétariat, le terme technique, c'est des gens qui vendent leur force de travail, en fait, et qui ont juste ça à vendre et rien d'autre. Donc, en fait, on a organisé une misère à l'époque qui les paysans l'ont vraiment vécu comme une déchéance. Vraiment une déchéance très profonde de se retrouver à aller en ville, à aller travailler dans les usines. J'avais un petit bout de chapitre sur comment les manufactures en fait ont évolué de manufactures dispersées vers des manufactures concentrées, vers des usines, et comment en fait les marchands, en contrôlant les entrées et les sorties, ils ont pu développer tout ça d'une manière énorme. Et comment aussi, en parallèle avec ça, plus la marchandise devenait au centre de tout, plus l'humain, quelque part, devenait lui-même une marchandise, et comment il y a eu une inversion entre l'humain et la machine. Hein,
L'humain devient machine aussi.
En fait, l'humain devient machine, et quelque part, la machine est plus humaine que lui. Hein. On en arrive assez vite à ces trucs-là. Pour faire très court, parce que j'aurais pas le temps d'en parler là, pour faire très court, en gros, on observe que chez les artisans à l'ancienne, on a la pièce, l'ouvrage, on a le bien, la marchandise, qui est au milieu de la maison, et autour de cette marchandise, s'affairent, tournent tous les artisans qui travaillent dessus. petit à petit, ce rapport, il va se transformer, il va s'inverser complètement. On va se retrouver avec des humains en poste fixe et une marchandise qui vient à eux. Donc, c'est là qu'on commence à se rapprocher de quelque chose qui va devenir le Fordisme, etc. Le travail à la chaîne, le convoyeur, avec tout ce qui y va avec, hein, Chaplin et compagnie. Donc, et en plus, on va compartimenter de plus en plus toutes les tâches qu'il y a à faire. C'est-à-dire que un canut de Lyon... à l'époque des canuts, il est totalement maître de son savoir-faire.
1850,
ouais, on va dire ça même déjà avant. Et il est complètement maître de son savoir-faire. Et en plus, il le voit comme un artiste, parce qu'il le dit lui-même à l'époque, dans des textes de canuts qu'on retrouve, on parle de tisser l'œuvre de Dieu, etc. L'ouvrier, il est ouvrier paysan, il a un rapport de paysan envers la terre qu'il la forge, envers sa pièce d'art d'artisan, il la forge. Tout ça, c'est quelque chose où il y met beaucoup de sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, et même une spiritualité qui va avec, etc., de la profondeur. Et en fait, les bourgeois qui vont commencer à faire de la manufacture d'usine, ils vont essayer de compartimenter ça le plus possible, d'avoir des tâches très, très faciles, très, très répétitives et absolument standardisées. Ça, c'est vraiment le maître mot de la fin du 19e siècle, c'est comment on va faire pour standardiser absolument tout. Et en fait, plus on a des choses faciles à faire et qui ne demandent pas un haut niveau de qualification, plus on peut le payer pas cher et tout le monde peut le faire. Donc on va pouvoir mettre des femmes et des enfants au travail.
C'est pas forcément machiavélique, c'est seulement une histoire de rentabilité. Hein.
Non, c'est vrai que c'est pas du tout machiavélique de regarder bosser des enfants 14 heures par jour quand ils ont 7 ans. Pour terminer, si tu veux, je sais pas si on a le temps.
T'as 30 secondes.
30 secondes. Je lis vite fait des passages du droit à la paresse par Paul Lafargue qui nous explique que quand même le premier droit et la première volonté de l'être humain, c'est de pouvoir en foutre le moins possible. Et ça, c'est le cas pour sûrement tous les animaux de la planète, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être le plus paresseux possible, faire ce que j'ai à faire, mais en...
Oui, mais on n'aura pas le temps. Dans le monde tel qu'il est organisé maintenant, en tout cas, on voit bien que justement, ça... C'est plus possible.
Ouais.
On est sur une planète faite, gérée par les humains. On n'a plus rien à voir avec la Terre telle qu'elle existait au départ.
Tu me réinviteras pour pouvoir parler du droit à la paresse.
Oui.
Les auteurs antiques, c'est très très intéressant ce qu'ils balancent sur le sujet. Je dirais juste une phrase de Xénophon qui dit « Quiconque donne son travail pour de l'argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves. » Voilà comment les Grecs, à l'époque, voyaient les choses.
Merci beaucoup, Julien. Et à bientôt, et voilà, on refera sûrement un sujet comme ça.
Avec plaisir.
Ciao.
Bonne soirée tout le monde.